Aujourd'hui, avec l'épître à Philémon, en fait, Paul continue de nous parler, enfin, l'Église continue de nous faire entendre le message qui s'avère être celui de Paul, colonne de l'Église, sur le comportement que l'on peut avoir dans la société les uns envers les autres. C'est un thème qui parcourt la semaine déjà depuis lundi, me semble. Et aujourd'hui, le message important, c'est sur la conscience et le libre arbitre, finalement. Donc, les circonstances sont ce qu'elles sont. Et comment nous allons nous positionner dans la justice par rapport à ce qui se présente. Et là, il est donc question d'un esclave qui a fichu le camp, quoi. Hein, donc, il a pris la fuite, il s'appelle Onésime. Et Onésime, ça veut dire utile en grec. Donc, quand Paul dit cet Onésime ne t'a pas été très utile, il y a un jeu de mots, bien sûr. Cet Onésime ne t'a pas été très Onésime. Bon, ça, c'est un petit jeu de mots qu'il y a, et donc on a là un message sur la. Aussi sur la solidarité de Paul, sur la justice, je viens de le dire. Voilà. Bien sûr, nous pouvons exercer notre droit sur une réalité sur laquelle nous avons précisément des droits, mais pouvons-nous le faire en faisant abstraction de ce que sont nos dettes, ce qu'on nous a donné? Si je ne m'abuse, je crois que j'avais appris ça en droit il y a très longtemps. J'étais m'égaré quelques années en droit. C'est vraiment pas mon truc. Il était question d'éthique procédurale. Donc il était question de dire que bien on peut avoir une éthique en fonction de sa fonction et une autre en fonction de ce qu'on croit. Donc ça donne des hommes politiques, par exemple, qui vous disent, moi comme, enfin aujourd'hui ils ne le diraient plus, hein, mais moi comme catholique je suis contre l'avortement, mais comme si j'étais élu président, j'y serais favorable. Oui, ben non. Voilà. Voilà, ben ça c'est pas possible. Et puis, voilà, donc il y a cette réflexion où il dit, voilà, tu sais, je pourrais exiger des choses de toi, hein, parce que quand même. Mais non, je te laisse libre. Et là, nous entendons la parole de Dieu. Nous entendions Dieu parler lui-même. C'est, je ne vais pas dire que c'est plus inspiré que le reste, parce que toute l'Écriture est inspirée, bien sûr. Mais là, nous pouvons entendre Jésus dire, et moi, je t'ai tout remis. Je t'ai tout remis. À chaque fois que tu me le demanderas, je t'ai tout remis. Vous connaissez cette histoire qu'on m'a racontée il y a quelque temps. Je l'ai déjà raconté, hein, mais ça fait du bien de la réentendre. Cette dame qui vient voir son curé et qui lui dit, voilà, mon père, ma voisine a une apparition du Christ. Alors, le curé lui dit, dites donc, ça c'est... Moi, il n'en croit rien du tout, évidemment. Et il lui dit, bah, écoutez, quand il reviendra la voir, elle lui demandera quel est le dernier péché que j'ai accusé en confession. Bon, pas idiot. Pas idiot comme réaction, quand même. Hein. Alors, 15 jours après, elle revient voir son curé qui lui dit, oui, je viens. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Ben oui, je viens vous voir pour ma voisine. Ah oui, c'est vrai. Alors, eh bien, le Christ a répondu, je ne sais plus, je l'ai déjà pardonné. Bon, donc évidemment, il y a ceux qui éclatent de rire en se disant c'est une bonne blague. Et puis il y a ceux qui ont un peu de finesse et qui se disent quand Jésus pardonne, c'est oublié. Nous nous regardons comme des pécheurs. Mais on n'a pas à se regarder soi-même. On a à laisser Jésus nous regarder. Et c'est Jésus qui sait. Et si on demande pardon, il faut vraiment croire et savoir que nous sommes intégralement pardonnés. La faute n'est pas forcément réparée, c'est ce qu'on appelle la pénitence, hein, on est d'accord. Si vous avez donné une gifle à je ne sais pas qui, vous êtes allé confesser, il faut aller aussi demander pardon à la personne et obtenir le pardon. Parce que peut-être que la personne, elle va mettre une semaine, elle va vous lancer une leçon, elle va vous traiter de tous les noms. Et il faudra rien dire, parce que ce sera peut-être juste, d'une certaine manière. Bref. Donc vous voyez, Paul dit, oui, tu sais, je pourrais exiger des choses de toi. Hein. Mais non, je te laisse libre. C'est ta conscience. Et alors dans l'Évangile, il est question de la venue du règne de Dieu, et c'est un peu le même sujet, parce que figurez-vous que pour agir comme ça, il faut quand même être en contact avec le règne de Dieu. Ne rendez pas le mal pour le mal. Alors il y a quand même une curiosité dans cet évangile, peut-être ça vous a frappé. D'un côté, Jésus dit, le royaume de Dieu n'est pas visible. Et d'un autre côté, il dit, c'est comme un éclair. Alors, franchement, un éclair, c'est visible, hein. Sauf que c'est visible la nuit. Mais un éclair en plein jour, c'est pas évident, hein. Donc en fait, je crois qu'il faut peut-être pas s'attarder là-dessus. Ce qui compte, c'est peut-être pas tant d'apprendre. On pourrait, si vous voulez, à partir de là, on pourrait se dire, ah oui, d'accord, donc il faut qu'on apprenne à discerner, à scruter l'horizon. Alors du reste, j'en profite pour aller regarder. Vous allez voir la traduction de Sœur Jeanne d'Arc. C'est intéressant de voir comment une femme rend ce passage. Et elle dit, voilà, le royaume de Dieu ne vient pas de façon à être épié. Donc vous voyez, on pourrait se dire, on va scruter le truc, quoi, pour voir l'éclair venir. Et en fait, c'est pas du tout ça, parce que la réponse, elle est au milieu. C'est le cas de le dire. Voilà que le règne de Dieu est au milieu de vous. D'autres traductions disent au-dedans de vous. Et quand il y a du choix dans les traductions, il faut tout prendre. C'est un principe d'exégèse assez connu. Donc le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Donc s'il est au-dedans de nous, ben, on comprend qu'on ne puisse pas beaucoup le voir. Hein. Parce que les chrétiens qui vont à l'église, à la messe le dimanche ou les autres jours et qui en sortent, ben, ça ne se voit pas toujours qu'ils sont lumineux. Hein. Mais moi le premier, hein. Ou pas le premier, mais en tout cas avec les copains, quoi. Donc voilà, est-ce qu'on pourrait aussi se dire, bon, est-ce que ça fait penser au passage d'Élie, vous savez, Élie dans 1 Roi 17, qui va voir passer Dieu, alors on nous dit Dieu était dans le tremblement, il y a eu un tremblement de terre, mais Dieu n'y était pas, il y a eu une tornade, mais Dieu n'y était pas, il y a eu un feu, mais Dieu n'y était pas. Et puis il y a ce passage traduit tristement dans nos Bibles, il y eut une brise légère. Bon. Littéralement, en hébreu, il y a écrit. Il y eut le son d'un silence en poussière, d'une poussière de silence, un silence pulvérisé, du silence en poussière. Je voudrais un peu de poussière de silence. Essayez de récupérer de la poussière et faites-la descendre. Ça fait autant de bruit que de l'encens quand ça monte, hein. Le silence. Donc c'est au-dedans de nous que ça se passe, au milieu de nous. Donc c'est une force intérieure, donc un silence intérieur. Parfois nous pensons que quand on est dans la sécheresse, dans le silence, on pense qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, quoi. Question à 2 balles, hein, parce que franchement, comme question hérétique, il n'y a pas beaucoup mieux. Hein. Donc c'est pas du tout la question. Et en fait, si ce silence, c'était la manière dont Dieu frappe à la porte de ton cœur. Au lieu d'imaginer que c'est parce que tu as dû faire quelque chose de pas gentil, comme on apprend quand on est gamin, on nous fait la gueule, c'est que bon Dieu, il sait pas faire ça. Hein. Et si c'était en fait Dieu qui s'approchait, comme Élie. Voilà. Question. Et cette force intérieure, évidemment, me fait penser à la mer. À la mer qui, quand vous la regardez, voilà quoi. Puis vous revenez 2 heures après, elle n'est plus au même endroit. Enfin, quand vous êtes du bon côté, hein, si vous êtes à la Méditerranée, c'est différent. Mais sur les côtes bretonnes, en tout cas, elle monte et elle descend toutes les 6 heures et demie. Plus un temps qui est déconcertant où elle est elle est étale, elle se repose. Elle fait une pause. Elle reste au même endroit une demi-heure. Elle refait ses forces. Ça nous parle du royaume de Dieu à l'intérieur. Hein. Il y a une force à l'intérieur. Mais elle ne se voit pas, cette force. Voyez, on constate extérieurement, mais elle ne se voit pas. Voilà, donc et je pense qu'il y a quelque chose de prophétique aussi dans cet évangile. Il faut qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté. Le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est... Est-ce que c'est pas aussi un peu le royaume qui doit être rejeté? Et franchement, il l'est pas mal aujourd'hui. Hein. Donc il est important que... Il n'est pas étonnant, je ne dirais pas qu'il est important, mais il n'est pas étonnant que quoi, y a, nous nous disions, mais bon, mais à quoi ça rime tout ça? Enfin, on va où avec tout ça? Voilà. N'ayons pas peur, les choses se font. L'Église est indestructible. Connaissez c'était pas une blague d'ailleurs parce que c'est historique. C'est Napoléon qui dit au secrétaire d'État de Pie VII quand il était à Rome là, si le pape ne se rend pas, je détruis l'Église. C'est authentique. Hein. Enfin, ma manière de la rendre est pas voilà, je la cite de mémoire. Mais... Et alors le secrétaire d'État rigole et lui dit écoutez empereur éminent, je sais pas comment il l'appelait. Vous pouvez pas détruire l'Église. On a déjà essayé de faire tout ce qu'on pouvait de l'intérieur, on n'a même pas réussi. Alors de l'extérieur, vous n'y arriverez jamais. Voyons, ayons foi dans ce fait que l'Église est insubmersible. C'est même pas possible. C'est une vérité de foi, hein. C'est pas un enthousiasme passager. Hein. Voilà. Par contre, nous avons à faire quelque chose pour que se répande ce royaume de Dieu et que ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus puissent entendre parler de Jésus. Voilà. Donc d'un côté, la conscience, hein, ramenée à notre raisonnement personnel avec cet Onésime et son maître. Et de l'autre côté, bien précisément, cette manière de vivre le royaume de Dieu à l'intérieur de nous. Sans ingratitude, mais en le laissant pousser, en laissant Dieu désherber notre cœur. Amen.